Je sais pas chez vous, mais chez nous, à Noël, avec tous ces chocolats, la motivation pour aller faire du sport est en dessous de zéro. Heureusement qu'à la télé, on a trouvé plein d'athlètes qui voulaient bien en faire pour nous.
Avec le Noël spectaculaire de SFR, profitez du meilleur du foot anglais et portugais en exclusivité avec la fibre starter et SFR Sport à 19,99€ par mois. Et pas seulement la première année. Appelez le 1090, service et appel gratuit.
Offre soumise à condition d'éligibilité valable jusqu'au 8 janvier 2018, réservée aux nouveaux clients. Plus 5€ par mois de location box, engagement 12 mois, frais d'ouverture de service 49€.
Bonsoir. Le constat fait cet après-midi par Emmanuel Macron était sans appel à l'occasion du One Planet Summit à Paris. Nous sommes en train de perdre la bataille. Oui, devant une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement qu'il avait conviés à l'île Seguin, donc à Boulogne-Billancourt. Oui, le président de la République, appelle à un choc. Alors, lequel ? On va le voir. Il n'y avait pas vraiment de grandes négociations, hein, comme on en voit souvent dans ces grands sommets, donc, mais plutôt un souhait d'attirer, d'entraîner toutes les bonnes volontés, à condition que le financement soit au rendez-vous. Alors, comment inciter à aller vers davantage d'efficacité énergétique ? Comment faire sauter les verrous ? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Ouais, le choc voulu par Macron. On s'intéressera spécialement à la France, bien sûr, hein, pour voir ce qu'on peut faire en plus, en mieux évidemment, chez nous. On va en parler. Claire Gagnère de GeoPLC, partager la croissance. C'est une experte en efficacité énergétique, opérateur de la transition énergétique qui nous accompagne ici sur BFM Business. Gilles Béraud, Fondation des Transitions, à la tête de la Fondation des Transitions, qui est bien, comme il se présente, un réservoir d'idées et d'actions. Christian Deséglise, responsable mondial des banques centrales pour le groupe HSBC, venu de New York, hein, en charge justement de cette mission sur la transition énergétique. Éric Mazoyer, directeur général délégué de Bouygues Immobilier. Et puis Fabrice Boissier, le directeur général délégué de l'ADEME. Alors oui, les propos extrêmement forts quand même d'Emmanuel Macron cet après-midi, donc sur l'île Seguin, à Boulogne-Billancourt, devant cette cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement. Extrait de son discours.
On ne va pas assez vite. Et c'est ça le drame. On ne va pas assez vite. Si on continue sur notre lancée, on est là où on s'est engagé à une augmentation d'en moyenne 1,5 degré, on est à 3 degrés et demi. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce à quoi on s'est engagé. Rien. Et donc quand je dis qu'on est en train de perdre la bataille aujourd'hui, je veux que vous preniez conscience que derrière moi, il y a des chefs d'État et de gouvernement. Dans 50, 60 ou 100 ans, il y en a 5, 10, 15 qui ne seront plus là. Tout simplement. Ça veut dire ça, ce qu'on est en train de faire. Et on pourra pas dire qu'on ne sait pas. C'est ce qu'on est en train de décider à ne pas changer. On décide juste qu'il y en a plusieurs autour de cette table qui vont disparaître. Leur population avec eux.
Ah ouais, les pays qui vont disparaître. Un constat très pessimiste d'Emmanuel Macron. Une cinquantaine de pays, peut-être les Fidji, les Maldives. À voir, bien entendu. J'ai essayé d'inverser la vapeur. Tiens, Gilles Béraud, à la tête de la Fondation des Transitions. Qu'est-ce que vous attendiez de ce sommet qui se tenait cet après-midi à Paris ?
Curieusement, un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire d'abord un axe sur les questions de finances, parce que s'il n'y a pas de finances, mais massivement, pour l'instant, on n'est pas à l'échelle évidemment de ce qu'il faut faire, et un signal, je crois assez courageux, de dire ce qui s'est passé à Paris, c'est juste exceptionnel. On n'y croyait même pas encore quelques jours avant. Ce qui s'est passé à Marrakech, on a pu voir aussi la présence
que vous aviez coordonné à la COP22, entre autres, Gilles Béraud.
Nous, on avait effectivement coordonné toute cette opération au Grand Palais, cette grande exposition qui montrait qu'il y avait des solutions. Mais maintenant, la question, c'est celle de changer d'échelle. C'est ce qu'a voulu aussi le Maroc. On a vu le roi du Maroc aux côtés.
Il était là, Sa Majesté le roi du Maroc, bien sûr.
Mais maintenant, c'est important aussi ce message. C'est super, on a bien avancé, le monde de la finance a pris conscience de ses responsabilités, de la co-responsabilité collective que nous avons tous, du plus haut niveau de l'État, des entreprises, jusqu'à chacun d'entre nous dans son quotidien. Maintenant, il faut vraiment rentrer en transition, et c'est une vraie transformation, et c'est un passage à l'échelle. Alors, est-ce que ce coup de gueule va porter ? Je l'espère, mais il portera si on s'y met tous, et je crois que c'est pour ça qu'on est là.
Christian Deséglise, HSBC, vous qui avez une vision mondiale aussi, puisque je le disais, vous êtes installé à New York, il en en est conscient, le chef de l'État. Hein. Ce genre de sommet diplomatique, c'est pas forcément le plus utile. Hein. Si les conférences climat, la COP, gardent un intérêt, disait-il, ce sont les régions, les villes, les acteurs privés, l'ensemble du secteur financier, privé et public, qu'il faut dorénavant mobiliser. Il a appuyé là où il fallait.
Oh ben je crois que c'est surtout un nouveau type de sommet en fait auquel on est en train d'assister aujourd'hui, parce que je pense qu'il veut sortir des élucubrations et puis des grandes résolutions qui mènent à
c'était
rien.
C'était pas une élucubration quand même le Saint-Denis, enfin c'est non, pas Saint-Denis, le Bourget il y a deux ans.
Hein. Non, c'était pas, enfin l'accord de Paris c'était pas une élucubration, mais c'était la mise en place d'un cadre, c'était la mise en place d'un schéma. Là, on est à l'action. Et ce qu'il veut faire vraiment, je pense, c'est d'inventer d'une certaine manière un nouveau type de sommet où des actions concrètes vont être prises par l'ensemble des acteurs, par les États, mais aussi par les villes, par les entreprises, par les banques, par les investisseurs, et c'est ce qu'on est en train de voir. Alors, les grandes annonces sont en train de se faire au moment où on parle tout de suite, mais il y a déjà plusieurs choses qui ont été importantes pour canaliser la finance vers la transition énergétique.
Claire Gagnère, Géo, PLC, on disait, c'est une mobilisation quotidienne qu'il faut solliciter, hein, et pas uniquement, voilà, de chefs d'État et de gouvernement une fois tous les deux ans, hein, partout dans la société. La preuve, vous-même, hein, vous entraînez dans votre sillage toutes sortes d'acteurs, des bureaux d'études, des fabricants d'équipements, des industriels du génie climatique, des architectes. C'est ça, il faut, comme on dit, chasser en meute, entraîner tout le monde, toutes les bonnes volontés.
Tout à fait. GOPLC, ça fait 10 ans maintenant qu'on œuvre pour la transition énergétique. On est un acteur privé indépendant, et c'est vrai qu'on fait travailler, on entraîne en fait avec nous. C'est du concret. Ce sont des artisans qui vont chez le particulier faire des travaux. Ce sont des entreprises qui ont besoin de rénover leur parc énergétique. Donc ça fait 10 ans en fait qu'on sème comme des petites fourmis. Là, on avance pour rénover le parc énergétique de la France, parce qu'effectivement, nous, on est au niveau France, par le biais des certificats d'économie d'énergie. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Mais oui, c'est un travail de fourmi, un travail de tous les jours, au quotidien. Et maintenant, il faut effectivement entraîner avec nous tous les acteurs du système. C'est vraiment un écosystème. Et je pense que ce soir, on a réuni ici autour de ce plateau la majorité des acteurs.
Des gens extrêmement complémentaires, en plus. Hein. Oui. La preuve, l'ADEME, Bouygues Immobilier. C'est ça, c'est la clé de la réussite, entraîner toutes sortes d'acteurs derrière ce combat. Allez, Fabrice Boissier, prenez la parole, s'il vous plaît.
Oui, bien sûr, je crois que l'enjeu, c'est qu'on y aille tous ensemble. Vous parliez de verrou tout à l'heure, il faut peut-être mieux parler de levier. Parce que la transition, c'est pas le problème, la transition, c'est la solution. Donc il faut qu'on y aille ensemble, il faut trouver les leviers pour avancer. Et donc ça concerne bien sûr l'ensemble des acteurs, mais aucun des acteurs, que ce soit les entreprises, la finance, les particuliers ou l'État, ne peut avancer tout seul. Donc il faut qu'on trouve les leviers systémiques qui font qu'on avance ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, au sommet, on a peut-être posé des premières pierres de début de solutions qui doivent ensuite être mises en œuvre.
Éric Mazoyer, Bouygues Immobilier. Cet entraînement, justement, comment justement susciter ces leviers?
Alors, on parlait de 10 ans, nous, ça va faire 10 ans qu'on va fêter l'énergie positive dans notre société, hein, puisqu'on s'est engagé il y a une dizaine d'années sur les premiers immeubles énergie positive. Alors d'abord,
et je peux en témoigner, parce que depuis 10 ans, voilà, Éric Mazoyer est souvent venu ici sur ce plateau, lors du Grand Journal à l'époque, les décodeurs de l'écho, justement, pas pour montrer tout ce que vous faites chez
voilà,
vous.
Ça marche, on est passé maintenant à l'échelle des quartiers. Ouais. Hein, on a livré à Lyon un quartier complet avec de l'échange énergétique entre plusieurs fonctions urbaines, du logement, du commerce et des bureaux. Et donc moi, ce sommet, ce que j'en attends vraiment, c'est qu'on passe de la parole aux actes et que ces actes, si j'en donne quelques éclaircissements, c'est par exemple, on en parlait, la capacité maintenant pour un certain nombre de fonds d'investissement qui achètent des assets, c'est-à-dire des actifs immobiliers vertueux, qu'il y ait une vraie cotation de cette valeur
tout
verte
juste, on va
et que
revenir.
Dans le spread de risque des investissements, il y ait effectivement une obligation de coter cette valeur verte.
Et Fabrice Boissier, l'ADEME.
Oui, quand on voit ces opportunités qui existent, il faut bien voir que ça doit nous permettre de rentrer dans une transition positive. L'ADEME a fait une actualisation des visions 2050 de la transition énergétique. Il faut diviser par 2 notre consommation d'énergie. On pourrait penser que c'est de la décroissance. Pas du tout. Pas du tout. En fait, en rentrant dans la transition, on crée 900 000 emplois.
Il y a des opportunités.
Donc c'est des opportunités, des nouveaux secteurs qui vont se développer. C'est des innovations technologiques et c'est des innovations aussi pour de l'emploi et de l'activité économique.
Christian Deséglise, HSBC.
Juste un tout petit mot, parce que je viens de New York, donc je voudrais apporter une vision de l'extérieur. La mobilisation qu'on est en train de voir en France est extraordinaire, de tous les acteurs. Et l'enthousiasme et l'énergie, je pense, du président est vraiment contagieuse. Et on voit, moi j'étais dans les stations F sur l'aspect tech, j'étais à Climate Finance Day, donc de Europe place aujourd'hui au sommet, c'est absolument extraordinaire. Donc un grand coup de chapeau.
Il se passe quelque chose ici.
Il se passe quelque chose.
Voilà, il y a deux ans quand même, il faut nous rappeler, hein, Gilles Béraud, il y avait cette COP21 couronnée de succès. Laurent Fabius, Ségolène Royal à l'époque, Barack Obama, le président américain, bien sûr. Rappelez-nous les objectifs qui avaient été fixés, objectifs à atteindre, et où en est-on aujourd'hui ? Parce que quand on écoute Emmanuel Macron, on est loin de cet objectif.
Alors, on est loin de cet objectif, notamment sur le plan financier, notamment parce que effectivement, il y a un retrait annoncé des États-Unis de l'accord de Paris à 2020, et effectivement des questions finances.
C'est pour ça qu'il a fait ce sommet, finalement, le président de la République.
C'est un rattrapage
d'un accord de Trump. Voilà.
C'était quoi l'accord de Paris ? C'est un accord diplomatique. On en avait besoin, et rappelons-nous que c'est un accord unanime qui a été arraché par Laurent Fabius le 12 décembre. Ensuite, il y avait besoin d'un plan d'action. Ça a été la COP22 de Marrakech. Et maintenant, il faut décliner concrètement les choses. On n'est pas à l'échelle. Mais on n'est pas à l'échelle aussi parce qu'on n'est pas encore rentré dans un vrai maillage des choses. Il faut des choses très, très opérationnelles. Qu'est-ce qu'il faut pour réussir une transition ? Il faut 5 choses. La première chose, c'est les questions d'acceptabilité. Il faut convaincre. Changer les modes de vie, les modes d'organisation. Ensuite, faut attirer les talents, faut de la compétence. Ensuite, faut de l'innovation. Ensuite, faut les bonnes temporalités, parce qu'on change pas tous en même temps. Et le cinquième point, faut de la finance. Mais faut pas seulement de la finance à un niveau très global, ce fameux fonds vert et les autres financements. Faut aussi faire du financement innovant très, très quotidien. Voilà, donc il y a le sommet aujourd'hui, là on est sur une échelle mondiale avec des très grandes organisations comme les vôtres, mais moi je pars à Tanger demain parce qu'il y a les rencontres le Forum méditerranéen du climat, où là on va être très opérationnel aussi sur des petits projets, parce que des fois, je vais vous prendre un tout petit exemple, il y a un projet que je trouve formidable, c'est ils ont trouvé des solutions pour diminuer par deux l'impact du hammam de Chef Chaouen en émissions de carbone. Vous allez me dire, comment ils ont réussi ? De l'innovation, une agence équivalente de l'ADEME sur place, des savoir-faire. On est à 50%. Vous allez me dire, le hammam de Chef Chaouen, c'est sympathique.
On va dire, c'est dans le nord du Maroc, justement, pas très loin de Tétouan, au bord de la Méditerranée.
Mais imaginez tous les hammams de toute la Méditerranée. Là, on commence à parler de centrales charbon, etc. Quand nos amis de GOPLC distribuent des ampoules basse consommation, qu'est-ce que c'est derrière ? C'est évidemment moins de carbone, mais c'est aussi des gens en précarité énergétique qui font des économies. Donc il faut absolument qu'on rentre dans une vision globale, et y compris sur des questions de santé qui vont nous permettre de faire bouger les choses.
Une vision globale, quelque part, avec des structures plus petites, plus souples, plus réactives, c'est ça ? C'est plus uniquement les chefs d'État et de gouvernement, finalement ? C'est la parole à chacun d'entre vous. Tiens, Claire Gagnère.
Oui, alors c'est effectivement des structures de taille, comme par exemple comme la nôtre, oui. De taille moyenne, on est une centaine de personnes, mais avec un cadre aussi.
Qu'est-ce que vous faites, par exemple ? Tiens, rappelez-le-nous, là, à propos des ampoules LED gratuites.
On a lancé une opération en juin l'année dernière, de distribution massive d'ampoules LED, gratuitement, pour les ménages en précarité énergétique, donc sous conditions de revenus. Et ça a été une opération incroyable, puisqu'on a donné à plus de 3 millions de ménages des ampoules LED qui réduisent effectivement la facture d'éclairage de ces familles, qui donnent du pouvoir d'achat effectivement en contrepartie. Et ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est qu'on travaille donc avec le dispositif des certificats d'économie d'énergie. On travaille sur des opérations ponctuelles.
Rappelez
comme les
juste
ampoules.
Juste d'un mot, ce que ce sont ces certificats d'économie d'énergie, ces CE, ça fonctionne comment justement ?
Alors c'est un système qui fonctionne, on va dire, qui fonctionne bien puisqu'il est efficace. On va en parler tout à l'heure. Le principe, c'est que nous sommes un intermédiaire entre les énergéticiens qui ont des obligations de faire des économies d'énergie.
Ils ont des objectifs
à leurs clients, voilà. Et le particulier, l'entreprise, l'industriel, qui peut bénéficier de ces économies d'énergie. Donc nous, on monte des programmes relativement simples. Donc les ampoules, c'est ça. Mais il faut une agilité, il faut des ressources, il faut
les ressources.
Il faut trouver les ampoules.
Ça coûte combien, et vous le trouvez où cet argent, vous ?
Ah ben c'est du financement que voilà, on revend en fait après les certificats d'économie d'énergie. Mais si vous voulez, c'est effectivement une agilité qu'il faut avoir et qu'on a pu avoir pour pouvoir distribuer autant d'ampoules LED auprès de ménages précaires. Donc c'est ce type d'opération qu'on monte. Il y a l'isolation des combles actuellement, et l'objectif, c'est d'aller donc vers les particuliers et de les aider à faire ces économies d'énergie.
Éric Mazoyer.
Alors, dans l'immobilier, on en parlait. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vous ai parlé de l'énergie positive. On avait monté une filiale qui s'appelle Reagreen, qui s'attaquait au parc. Juste peut-être pour ceux qui nous écoutent, le neuf, la construction neuve de bureaux, sur 52 millions de mètres carrés, qui est le parc francilien, le neuf, le taux de renouvellement par an, c'est à peu près 1,5%. C'est-à-dire, c'est 4 à 500 000 mètres carrés par an. Donc, c'est pas à l'échelle d'une œuvre qu'on arrivera à transformer le parc.
Non.
Donc, évidemment, on avait inventé AirGreen en se disant, il faut massivement s'engager sur la rénovation
de l'existant, bien sûr.
Et passer à l'échelle des quartiers pour massifier la démarche et faire de l'échange énergétique. Et puis, patatras, vous avez vu que la fameuse commission Gauchot, qui a maintenant 8 ans, a vu son décret arriver juste après le départ du président Hollande, et le fameux décret est tombé juridiquement, ce qui fait qu'on est dans un vide et on n'a toujours pas de cadre juridique. Voilà, alors vous voyez, moi je trouve ça très bien, c'est bien les sommets, c'est bien les grands, c'est super, il faut dynamiser le système, mais il faut aussi que sur le terrain, on favorise l'environnement. Nous, on réclame un statut d'autoproducteur individuel d'énergie pour que chaque Français puisse, comme on avait créé le statut d'indépendant
d'auto-entrepreneur,
chaque Français puisse être son propre producteur et avoir la possibilité d'auto-consommer quand il en a trop.
Mais là, il y a des sortes de monopoles encore existants qui bloquent encore un petit peu.
Absolument.
Enedis, par exemple. RDF.
Pas de nom, pas de publicité.
Voilà, c'est dit. Fabrice Boissier, l'ADEME.
Oui, je crois que les exemples qu'on vient de donner, que ce soit les ampoules, le hammam ou l'intervention sur le tertiaire, montrent que la difficulté de la transition, c'est la granularité à laquelle il faut aller. Mmh. C'est plein de petits projets. Mmh. On n'est plus à l'époque des grands plans quinquennaux. Voilà. Il faut trouver les acteurs agiles qui vont pouvoir intervenir sur les différents projets. Quand c'est petit, l'État a tendance à dire « c'est compliqué, ça va être cher ». En fait, il faut trouver des moyens de financement agiles pour aller trouver des solutions.
Pour les laisser vivre.
Je vous donne deux exemples. Les PME, c'est une richesse énorme en France. C'est des gens qui sont surbookés, qui n'ont pas le temps de s'occuper de leur efficacité énergétique, de leur process.
Bien sûr.
Ils n'ont pas juste les 10 minutes qu'il leur faudrait pour éteindre la lumière ou pour capoter une machine. L'ADEME, on arrive, on a trouvé une idée, c'est on leur finance un audit, quelques milliers d'euros, on les accompagne pendant un an. On sait que si on fait ça, ils vont faire des dizaines de milliers d'euros d'économies. On leur paye l'audit. Et s'ils font plus d'une dizaine de milliers d'euros d'économies, on leur demande de nous rembourser.
Sympa.
Ça ne coûte pas à l'argent public et ça enlève une épine du pied des entreprises. On a déjà 300 entreprises qui se sont inscrites. On a lancé la chose il y a un mois. On a déjà 300 entreprises inscrites. On compte en avoir 5000 en 2019-2020. On peut changer l'économie française des PME avec ça et sans argent public. Bon. Deuxième exemple.
Vous en aurez beaucoup plus que 300 demain matin avec tous ceux qui nous écoutent ce soir dans les décodeurs de l'écho.
TPE, deuxième PME, exemple. Gagnante sur tous les coups. C'est l'adresse du site internet. Vous pouvez vous inscrire.
On va trouver.
Sans problème. Autre exemple. Le fonds Eiffel a lancé un fonds Eiffel Transition pour adresser les questions que se posent les porteurs de projets de transition en efficacité énergétique ou énergie renouvelable. C'est des petits projets un peu complexes. Ils ont besoin de prêts, de durée variable, de montants variables, de petits montants. Ils ne trouvaient pas dans le système bancaire. Le fonds Eiffel met en place ce système de prêts court terme. Ça marche du feu de Dieu. On a mis 40 millions d'euros d'investissement public en capital aux côtés de partenaires privés pour 160 millions d'euros. Et on arrive à faire un truc qui marche très bien, qui génère des nouveaux projets. Et donc là encore, on a des effets de levier très importants avec un peu d'argent public. On réussit à débloquer des situations dans le secteur privé.
Alors oui, alors les besoins en financement quand même. Alors bon, au-delà de la France, hein, je suis tombé sur ce chiffre hallucinant de l'Agence internationale de l'énergie qui nous dit que pour réduire les gaz à effet de serre, atteindre des objectifs, il faudra des investissements massifs estimés à 3 500 milliards de dollars, des fois qu'on se rende bien compte à quoi représente 3 500 milliards de dollars, mais pourquoi pas, chaque année pendant 30 ans pour contenir l'augmentation des températures à un minimum de 2 degrés. Bon, qui dispose d'une telle somme? Est-ce qu'il y a suffisamment d'argent? Tiens, Christian Desaiglises, donc, qui pilote donc cette structure.
Je sais pas,
HSBC, responsable justement de ce projet au niveau mondial.
Il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent qui est prêt à s'investir. Toutes les banques sont en train, en fait, d'intégrer le risque climatique dans leur politique de prêt. Les investisseurs sont en train de regarder très près les risques et les facteurs, ce qu'on appelle ESG, donc environnement, social et gouvernance. Et je pense que c'est pas forcément l'argent qui manque. Si on prend les besoins donc, que vous mentionnez, qui sont de l'ordre de 90 000 milliards de dollars sur les 30 années qui viennent, donc à peu près 3 000 milliards par an, si on regarde les chiffres sous gestion des grands fonds de pension aujourd'hui, ils sont équivalents à ce montant. C'est-à-dire qu'on a une épargne dans le monde qui permettrait de...
Donc on a ce qu'il faut aujourd'hui. Voilà.
On a ce qu'il faut.
Qu'est-ce qui manque?
Ce qui manque souvent, ce sont des cadres réglementaires qui soient suffisamment transparents transparent, qui soit suffisamment prévisible pour que les investisseurs puissent investir. Et ça, c'est vrai en Europe, mais c'est encore plus vrai dans les pays émergents. Et je dirais que la bataille du climat, elle se joue en Europe, mais elle se joue énormément dans les pays émergents qui sont aujourd'hui les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre, qui font énormément d'efforts sur le, dans le domaine, mais bon, qui partent de niveaux qui sont, en termes de richesse, qui sont bien sûr pas les mêmes que les nôtres, mais c'est vu leur croissance et vu les pollutions qu'ils émettent, c'est là que je pense l'avenir de la planète est en train de se jouer.
Les pays émergents, qui est aussi votre autre spécialité, Christian Deseglis, chez HSBC. Éric Mazoyer,
vous immobilier. Moi, je ne sais pas ce que c'est, 3500 milliards. Ah, c'est pas mon échelle. Je ne crois pas que c'est à l'échelle de mes clients, ceux qui achètent des appartements. Ou des... Mais par contre, un cadre réglementaire qui permettrait de bonifier les taux, le taux d'emprunt auquel un prospect ou un futur client acquéreur d'un appartement neuf ou ancien pour obtenir une bonification de son prêt, ça c'est un vrai moyen, surtout pour les primo-accédants, c'est-à-dire la génération entrante, c'est-à-dire les 30-40 ans qui sont quand même beaucoup plus, j'allais dire, qui sont quand même au cœur de cette problématique, sure, parce que c'est sure. leur avenir qui joue, hein. Et en plus ils ont cette éducation et cette formation. Je pense qu'il faut vraiment créer cet environnement qui fasse que les banques puissent offrir des taux bonifiés.
Ouais. Et ça existe, allez-y, Christian Deseglis.
C'est en train d'arriver. On a vu depuis quelques années le développement de ce qu'on appelle les obligations vertes, oui. les green bonds. Mmh. Aujourd'hui, on a à peu près 120 milliards de dollars qui sont émis en 2017.
On parle de 150 milliards en 2018.
L'année prochaine, sans doute, ouais, de l'ordre de 150 à 200 milliards de dollars. Alors, c'est pas énorme à l'échelle des obligations qui se gèrent dans le monde et qui s'émettent dans le monde aujourd'hui, mais ce sont quand même des montants importants. Et ce qui est important, c'est que les primes d'émission aujourd'hui des obligations vertes sont légèrement inférieures à celles des obligations conventionnelles. Ce qui montre qu'on commence à avoir une prime de qualité aux obligations vertes et à la finance verte en général. Et les banques sont en train de mettre en place du pricing à l'intérieur de leur politique de crédit qui favorise les prêts verts par rapport aux
prêts. Vous doutez, je ne doute pas,
mais je reviens à ce que disait mon voisin, ce qui est juste.
Fabrice Boissier de la DEF.
Vraiment, il faut que ça se décline à la maille la plus basse. Et le green bond, c'est intéressant, mais pour monsieur et madame Durand, qui veut acheter 240 000 euros son appartement, C'est aussi quelque chose qui n'est pas dans son échelle.
Ouais. Claire Gagnère, Géo PLC.
Géo PLC. Non, effectivement, c'est vrai que...
Partager la croissance.
Pour en revenir au certificat, et en fait, nous notre rôle, c'est d'inciter, c'est de faire passer à l'acte. Alors, sous forme de primes, effectivement, donc des primes qui... C'est pas de l'argent public, les primes, c'est des subventions qui nous sont versées par les énergéticiens. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, là, on ne touche pas l'argent public. Et donc, il faut inciter le particulier à faire des travaux d'économie d'énergie. On le conseille, on va chez lui, alors pas nous, mais les artisans. Et vous parliez tout à l'heure de cadre. Alors nous aussi, ça tombe bien, parce que nous aussi, on aimerait bien aussi un cadre un peu plus souple, mais qui nous donne aussi de la vision sur le long terme, parce que les certificats d'économie d'énergie sont des objectifs qui sont fixés tous les 3 ans. Donc tous les 3 ans, on a de nouveau des objectifs de plus en plus... important, de plus en plus élevé, mais quid après ces 3 ans, comment est-ce que vous voulez qu'un entrepreneur ou qu'un patron d'entreprise fasse des investissements embauche? Par exemple, nous, en 2017, on a créé plus de 50 emplois au sein de notre propre société, et indirectement plus de 1000 si on compte tous nos clients, les artisans, etc. Donc si on n'a pas une vision à long terme, c'est difficile effectivement de faire des investissements.
Alors Fabrice Boissier, l'ADEME, on reviendra sur Gilles Béraud, donc la Fondation des Transitions.
Oui, tout à fait, sur ces questions de rénovation énergétique, c'est très difficile parce qu'on doit faire des projets à 10 000 euros ou à 20 000 euros une rénovation, c'est tout petit. On a un problème d'intermédiation financière, les banques ne sont pas intéressées par ce genre de prêt. Or, pour les ménages, il y a une vraie contrainte, mettre cet argent sur la table. Donc il faut absolument trouver des mécanismes qui permettent qu'il y ait un tiers financeur qui va prendre en charge l'avance et puis se rembourser sur des économies d'énergie. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé la clé, on n'a pas réussi à attirer les acteurs du financement là-dessus. Donc il faut qu'on continue à travailler collectivement. Les certificats d'économie d'énergie, c'est un des leviers qui permet de ne pas faire payer les ménages, mais il faut aussi qu'on trouve comment mobiliser les banques. Les prêts hypothécaires ne sont pas vraiment utilisés en France, alors que ça permettrait à des gens, notamment des personnes âgées, qui pourraient hypothéquer la valeur de leur bien immobilier, de faire des rénovations, de vivre confortablement, et tout le monde serait gagnant. Et là, il faut vraiment que les banques se mobilisent.
Alors, Christian Deseglis et Gilles Béraud,
un tout petit mot. Je n'ai aucun doute sur le fait que les banques vont offrir, dans les mois et dans les années qui viennent, des prêts à des conditions bonifiées sur ce qui est actif vert. parce que ces actifs sont moins risqués, en fait. Ce qui manque aujourd'hui, ce sont les instruments de mesure qui permettent de faire un lien précis entre la réduction du risque et la réduction du taux qui est chargé aux emprunteurs. Mais j'ai aucun doute que dans les mois qui viennent, les instruments seront mis en place pour des prêts bonifiés.
Gilles Béraud.
Oui, je crois qu'il y a, on a deux niveaux en ce moment. On a un niveau très institutionnel porté effectivement par les grandes banques, les États, etc., qui font leur boulot. Et il y a une effervescence extraordinaire de projets partout, qui innovent. Là, dans l'appel à projets qu'on a lancé là pour Tanger, il y a des gens de ces Storage qui ont inventé une cartouche d'hydrogène basse pression qui va permettre de mettre des scooters dans la rue à Marrakech. Il y en a 10 000 de prévus, tout ça. Parce qu'il y a l'efficacité qui est trouvée du stockage. Ils ont inventé quelque chose, quoi. Mais ça, tout s'invente. Donc il faut à la fois ce qui se passe au niveau bancaire, mais aussi descendre dans ce maillage pour constituer ce qui correspond aux jeunes d'aujourd'hui, qui inventent, qui innovent, qui font des start-up, une espèce de blockchain du climat, et effectivement qui peut s'alimenter par un soutien, par un peu d'argent, qui se duplique, qui s'accélère. Le monde des jeunes d'aujourd'hui là, qui construisent, eux, ils sont sur leur jeu, ils sont sur Minecraft, ils sont des endroits comme ça. Il faut qu'ils basculent et qu'ils, leur talent, ils le mettent au service du climat. C'est de ça dont on a besoin. Et en même temps, ce niveau. Mais pour l'instant, on sent bien ce qui se passe dans une journée comme celle-là, qu'on a un peu du mal à faire communiquer tout ça, mais c'est le reflet aussi de l'ensemble de notre société qui a quand même du mal à innover.
Parfois un peu cloisonné, voilà.
Toutes les grandes organisations, que ce soit les États ou les grandes entreprises, on sait bien, ont un peu moins de rapidité, de vélocité, d'innovation et de capacité à faire leur transition que toutes les petites structures et que ce monde, justement, de la blockchain, du numérique, des réseaux sociaux, quoi.
Un mot, Eric Mazoyer, de Bouygues Immobilier, puis on se retrouve juste après.
La France, c'est quand même traditionnellement un pays de construction. On a quand même des très très grands groupes de BTP, dont
Bouygues
fait partie. Et vous dire que finalement, sur l'efficacité énergétique, on a pratiquement toutes les briques technologiques. On a beaucoup de talent, beaucoup d'intelligence, de très bonnes start-up. Je vous donne un exemple simple. On fabrique un immeuble à énergie positive, 100% bois. Je vois pas, aujourd'hui, il va être loué, et on le réalise avec la Caisse des dépôts. On va le mettre en vente une fois qu'il sera loué auprès d'un fonds d'investissement. Je vois pas ce qu'on pourrait faire de plus. C'est un immeuble qui consomme 70% de moins que la réglementation, qui produit sa propre énergie, qui est carbone zéro, quasiment en construction parce qu'il est à 90% en bois. Alors il y a un peu de carbone pour transporter le bois. Et il est carbone pratiquement zéro en exploitation puisqu'il est énergie positive. Eh bien, le jour où on va le mettre en vente, il y a aucun cadre qui ne permettra de prendre dans le taux de capitalisation, c'est-à-dire le prix auquel on vendra cet immeuble, l'investisseur n'a aucune imposition de payer plus cher cet immeuble, alors que il apporte lui-même forcément un coût de fonctionnement faible et un seuil d'obsolescence ralenti.
Bon, on se retrouve dans un instant. On continuera de parler du financement, de l'effort des entreprises, justement. Quel est le geste que les entreprises doivent monter? Est-ce que les entreprises, finalement, détiennent la clé également? Donc, ce fameux levier, donc, eh bien, pour faire sauter les verrous, pour faire en sorte de respecter tous les objectifs climatiques. À tout de suite avec les décodeurs de l'écho de BFM Business.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, le président de la République avait évidemment pour souhait d'entraîner toutes les bonnes volontés, justement, et bien pour sauver le climat, sauver la planète. Malgré son constat extrêmement pessimiste cet après-midi, donc sur l'île Seguin, devant une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement, on est en train de perdre la bataille. Oui, il y a cette question du financement qui revient évidemment à la une de l'actualité, à la une de cette problématique, justement. Voilà, organiser ce financement. Christian des Églises, qui coordonne au niveau mondial, donc chez HSBC, eh bien, toute cette action en faveur de la planète, nous disait, le financement, il est là, mais les projets ne sont peut-être pas toujours au rendez-vous, c'est ce que vous nous disiez. Malgré tout, bon, voilà, tout ça s'est intégré de plus en plus maintenant pour les acteurs de la finance mondiale, la sauvegarde de la planète. Je cite M. Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU, qui était cet après-midi sur l'île Seguin. Soutenir les énergies fossiles, c'est investir dans notre perte. Et la Banque mondiale annonçait cet après-midi qu'elle arrêtera de financer après 2019 l'exploration et l'exploitation de pétrole et de gaz. Vous, chez HSBC, par exemple, qu'est-ce que vous avez retiré de vos investissements, ce qu'on appelle le désinvestissement, par exemple vis-à-vis du charbon, Est-ce que vous posez des conditions, justement, vis-à-vis des entreprises que, oui, bien qui sûr. Demandent de l'argent?
On a des politiques très strictes en matière de financement. Tout ce qui est huile de palme, par exemple, est impossible.
Vous dégagez.
Le charbon. Ouais. On ne fait que dans des cas très particuliers où, en fait, les besoins énergétiques ne peuvent pas être fournis, être satisfaits par d'autres types d'énergie. Donc, par exemple, au Vietnam, où le charbon est une des sources principales d'énergie, on encourage la transition énergétique. C'est d'ailleurs qu'on va prêter pour que les entreprises deviennent avec un charbon propre, je dirais. Donc, les encourager à améliorer et à réduire leur...
Les encourager, leur mettre la pression, clairement.
Exactement.
Oui, il y a ça aussi.
Mais la pression au niveau mondial est de plus en plus importante. Vous mentionnez la Banque mondiale. Les grands investisseurs institutionnels aujourd'hui sont en train de se désengager du charbon, mais aussi de plus en plus des énergies fossiles, et d'aller vers le renouvelable.
Les fonds de pension, qui font partie des plus actifs, les plus activistes, j'allais dire, aussi. Sous la pression des épargnants, des retraités. Oui. On voit les agences de notation qui sont mobilisées. Pour attirer, là encore, on parlait un petit peu du verrou réglementaire, là, il y a quelques minutes. Pour attirer des fonds privés pour l'environnement, est-ce qu'il faut assouplir, alléger les règles prudentielles, les fameuses règles prudentielles qui parfois entravent le secteur financier? Assurance et banque.
D'ailleurs, il y a une réflexion en cours au niveau de la Commission européenne pour avoir ce qu'on appelle le Green Supporting Factor, c'est-à-dire un taux préférentiel pour le traitement prudentiel des prêts faits aux entreprises vertes. Donc, de manière à favoriser, en fait, et à canaliser la finance vers le vert. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait de l'innovation, on parlait d'autres choses. C'est vraiment la finance verte et la finance durable en général, c'est une nouvelle façon de concevoir le monde. C'est une nouvelle façon de penser. C'est la finance, l'économie, le commerce. Et tous les instruments ne sont pas encore en place. On est en train de les inventer. Il y a une effervescence fantastique, comme vous le disiez. Et je pense qu'ils vont se mettre en place, parce que la pression est très importante. Elle vient, vous le disiez, des épargnants, mais elle vient aussi des consommateurs, elle vient aussi des millennials, des nouveaux, des jeunes, pour lesquels la question du climat est fondamentale. Donc je pense qu'on va vers une nouvelle façon de penser l'économie. Mais ça prend du temps.
Il y a un espoir. Allez, il y a un espoir. Fabrice Boissier, directeur général délégué de l'ADEME.
Oui, la finance verte, donc c'est quelque chose de nouveau qui émerge, elle a besoin de trouver sa cible, c'est-à-dire trouver des entreprises qui sont vertes. Et ce qui manque aussi aujourd'hui, c'est des labels qui permettent de qualifier des entreprises vertes.
Voilà.
Alors l'ADEME est en train de développer un label qui s'appelle ACT, pour Assessing Low Carbon Transition, qui va en fait évaluer le niveau d'engagement des entreprises dans une trajectoire de transition. On ne dit pas qu'ils sont forcément verts maintenant, mais qu'ils sont dans une trajectoire de transition. Et ça doit permettre à des investisseurs de pouvoir investir en confiance en fonction de la notation de l'entreprise. Et on a testé ça sur quelques secteurs comme les grands producteurs d'électricité, sur la grande distribution ou sur l'automobile. C'est très prometteur et on va l'étendre à tous les secteurs.
Et en sens inverse, est-ce que vous seriez favorable pour faire une liste des entreprises les moins vertueuses quelque part, ce qu'on appelle le name and shame quelque part, comme on a la liste aussi des mauvais payeurs que le médiateur du crédit, médiateur des entreprises, nous fait régulièrement? Vous seriez favorable, Fabrice Boissier?
Alors, je crois que c'est une initiative qui a été proposée au sommet aujourd'hui.
Ah bon, très bien. Christian Deséglise et ensuite Claire Gagnère.
Elle vient de sortir. Donc il y a 100 entreprises qui sont pointées du doigt comme celles qui sont le plus polluantes, qui contribuent le plus au réchauffement. Et en tout, ce sont 26 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion représentés par les plus grands investisseurs institutionnels, y compris HSBC Global Asset Management, pour lesquels donc ces entreprises vont être suivies. On s'engage on a un engagement actif avec elles pour qu'elles améliorent leurs pratiques, pour qu'elles rapportent aussi dans leur reporting les risques climatiques et les politiques qu'elles sont en train de suivre pour justement s'adapter à la transition énergétique. Donc cette liste vient d'être annoncée aujourd'hui.
Et il faut peut-être l'agrandir, la développer. Claire Gagnère, Géo PLC, experte en efficacité énergétique, opérateur de cette transition énergétique. Il faut développer cette liste.
Oui, oui, je pense. Alors,
l'entreprise a aussi quelque part les clés du problème dans ses mains.
Je pense qu'effectivement, les entreprises aujourd'hui, elles sont. Il y en a qui sont prêtes. Il y a plein d'initiatives. Ce que disait Gilles tout à l'heure, il y a plein d'initiatives privées qui s'organisent. Maintenant, je pense qu'il faut catalyser toutes ces initiatives privées. Et nous, en fait, ce qu'on souhaiterait, c'est pouvoir rassembler autour d'une table, une grande table, toutes ces initiatives, toutes ces entreprises et tous ceux qui œuvrent vers l'efficacité énergétique, et pourquoi pas créer un sommet en fait de l'efficacité énergétique.
Encore un sommet.
Sommet concret.
Oui.
Concret.
Non, il y en a eu assez.
On pourra l'appeler autrement, mais de toutes ces des entreprises et ces initiatives privées en créant, comme on avait dit tout à l'heure, un cadre aussi incitatif mais stable, voilà, qui nous permette de continuer à avancer.
Gilles Béraud, à la tête de la Fondation des Transitions.
Oui, il faut continuer à créer des sommets. Pourquoi on a fait cette opération au Grand Palais pendant la COP? Et pourquoi le Grand Palais? Parce que le Grand Palais, c'est le symbole des expositions universelles. Quand vous allez voir une exposition universelle au début du siècle précédent, vous voyez la modernité, vous voyez la technologie. Vous sortez, vous avez envie que ça arrive plus vite. Aujourd'hui, tous les discours d'avenir sont pessimistes. Donc, il faut basculer ça. Donc, on a besoin de se voir, de montrer que c'est possible. Ce qu'il faut faire rentrer dans la tête de tout le monde, que c'est possible. Et après, la deuxième clé, c'est la capacité. C'est-à-dire que, effectivement, il y a de l'argent disponible. Ce qu'il n'y a pas aujourd'hui suffisamment, c'est les gens capables de monter des dossiers qui vont les convaincre le banquier, qui vont les convaincre l'institution, qui vont les convaincre le grand opérateur et trouver de l'argent. Et en plus, ça tombe bien avec les C2E, parce que c'est pas de l'argent public, c'est que de l'argent privé. C'est une forme d'économie circulaire. Convaincre tout le monde et on monte du projet et on y va. On fait monter les capacités. Et ce qui est un petit projet aujourd'hui, bah, peut être multiplié parce que justement, cette génération Minecraft dont je parlais tout à l'heure, j'y crois complètement parce que elle a compris, mais c'est pas militant pour elle le climat, c'est inclusif. Ils ont compris, ils ont été à l'école. Et ce qui est nouveau par rapport aux générations précédentes, c'est que c'est mondial, parce qu'ils se parlent tous sur Internet. Et moi, je crois beaucoup à cette génération-là. Maintenant, il faut qu'on accélère les choses, juste pour entrer dans le champ des possibles, en étant capable d'innover, d'inventer, de faire des pas de côté, y compris sur le plan financier.
On va revenir sur l'innovation, parce qu'Éric Mazoyer est avec nous, il a plein de trouvailles, comme chaque fois qu'il vient nous voir, c'est le directeur général délégué de Bouygues Immobilier. Juste à propos de ces certificats d'économie d'énergie, un mot quand même, Claire Gagnère, qu'on comprenne bien. C'est pas un crédit d'impôt, hein.
Non.
C'est complètement différent.
Oui.
Ça, elle va combien?
Bah, ça dépend.
Mais globalement.
Bah, si vous regardez dans le nouveau plan que propose le gouvernement sur le plan des rénovations énergétiques, il y a 6 milliards d'euros qui vont être financés par les certificats d'économie d'énergie sur le quinquennat. Donc, c'est des sommes qui sont énormes, qui sont importantes. Comme je vous rappelle, c'est pas de l'argent public, c'est des énergéticiens en fait qui financent ces économies d'énergie. Et chacun à son niveau peut travailler sur les certificats d'économie d'énergie. Donc, nous aujourd'hui, on est 7 acteurs privé indépendant. Nous, on a réalisé entre 2013 et 2016, on a réussi à faire économiser la consommation annuelle de la région de Bourgogne, par exemple, grâce au certificat d'économie d'énergie.
Voilà, Claire Gagnère, donc de GEO-PLC. Alors, chez Bouygues Immobilier, justement, quand on parle d'innovation, voilà, innovation, l'une des 5 conditions pour bien réussir une transition énergétique, comme nous le rappelait tout à l'heure Gilles Béraud. Convaincre, attirer la temporalité, financer, et puis l'innovation. Vous travaillez sur quoi en ce moment concrètement?
Alors, si vous me permettez, je reviens une seconde sur votre liste.
Oui.
Parce que moi, je trouve ça très bien, une liste des mauvais de la classe et une liste des très bons de la classe. Ça a deux autres vertus qu'on n'a pas abordées. La première, c'est pas que pour les fonds, notamment que pour les actionnaires. Ça a aussi une vertu éducative vis-à-vis du consommateur, de savoir quand il engage son argent, quelle est la responsabilité de. Dans ce domaine de la société. Et puis une autre vertu, c'est la guerre des talents, parce que nos sociétés vont avoir besoin d'embaucher de plus en plus de talents. Et moi, je pense que coter les entreprises en fonction de leur performance environnementale et sociétale, ça va devenir un aspect discriminant à l'embauche pour les jeunes, notamment pour les milléniums, parce que je pense qu'ils ne voudront pas, prochainement, ils ne voudront plus travailler dans des sociétés qui ne sont pas aujourd'hui au top de ces domaines-là.
Comment vous faites-vous, par exemple, pour attirer les talents chez Bouygues Immobilier?
Par exemple, parler d'innovation, ouais. On est un promoteur généraliste, on a un petit fonds d'investissement qui s'appelle Bird, qui est un fonds, et c'est vrai dans tous les métiers du groupe Bouygues, hein. Martin Bouygues a demandé à ce que tous les métiers aient ça, et notre fonds d'investissement, c'est un fonds qui est doté d'un capital et qui investit systématiquement dans des petites start-up dont il ne s'agit pas de prendre le contrôle financier, hein, il s'agit de les aider, les guider, les épauler, les pousser, et qui sont systématiquement sur des sujets qui sont des sujets qui touchent soit à l'efficacité énergétique, soit au durable, et qui ont une connexion avec les usages de demain dans le mode de vie du quartier ou du bâti.
Ouais, quand on parlait d'innovation, c'est quoi des nouveaux matériaux? Vous parliez du bois tout à l'heure, des éco-quartiers comme à Lyon, le Grand Paris, bien sûr, on commence à voir, évidemment, vont émerger des quartiers complètement nouveaux à la sortie des gares du Grand Paris Express.
Oui, alors ça, c'est le grand enjeu de demain. Ouais. Mais à mon avis, en termes d'efficacité énergétique, il y a encore un enjeu encore plus important que celui-là. Évidemment, il y aura des aménagements autour des gares, puisqu'il faut financer le coût de la construction de ces gares. Ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est le Grand Paris, ça va générer 11 millions de mètres carrés. Et on est sur un marché de 52 millions de mètres carrés, dont on sait qu'on est plus rentré dans un marché de renouvellement donc d'efficacité énergétique sur le bâti existant, que dans un marché de croissance. Et là, il y a une vraie interrogation de savoir si le Grand Paris doit renforcer des pôles existants de tertiaire afin d'en faire des grands leaders, des grands champions de l'efficacité, ou doit saupoudrer ces mètres carrés de bureaux qui à l'un, qui à l'autre, en fonction.
Alors, faut répondre vite, hein.
Faut répondre vite, mais déjà, nous, on aimerait que la gouvernance de la métropole et du Grand Paris soit stabilisée, ce qui ne semble pas être encore totalement d'actualité.
Et pour répondre à la question comment faire sauter les verrous, on revient là-dessus justement, peut-être moins d'entraves, peut-être plus de souplesse, y compris dans la réglementation. Allez, tour de table de chacun. Claire Gagnère, GOPLC.
Ah oui, alors nous, on revient effectivement à ce cadre que l'on veut plus stable, plus visionnaire, pour nous aider en fait à poursuivre ce qu'on fait, à accélérer en fait cette transition énergétique dans des actions concrètes, donc la rénovation des bâtiments, des opérations pour aider les ménages précaires à économiser.
Gilles Béraud.
Je crois qu'il faut faire très attention aussi au CO2. Il faut ouvrir plus les choses. Tout ce qu'on engage vis-à-vis du climat, vis-à-vis du green, c'est aussi des questions de santé. Et à un moment donné, si on veut parler de coût global, il faut aussi, notamment vis-à-vis du charbon, parler de ces côtés-là. Et il y a une dimension dont on n'a pas parlé, mais qui est extrêmement importante, c'est la question d'adaptation. Il ne faut pas mettre l'argent que sur les luttes contre les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi sur l'adaptation, parce que les changements climatiques sont déjà là.
Christian Deséglise, HSBC, comment fait sauter les verrous?
Je crois que c'est en train d'arriver. Je suis très optimiste, en fait, sur les 2-3 années qui viennent, parce que les opportunités en matière commerciale, d'investissement, et puis le changement des mentalités est en train de se faire. Donc je pense que l'argent va nécessairement arriver dans ces domaines.
Éric Mazoyer.
Alors c'est un peu paradoxal, alors sauter des verrous, et on voit d'ailleurs que depuis 5-10 ans, il y a quand même une très grande excitation, il y a un développement de start-up et d'innovation et d'intelligence dans ces sujets de l'efficacité énergétique qui est très forte en France. Il y a un autre domaine quand même sur lequel du coup on aimerait que ça s'encadre un peu plus, c'est quand même ce qu'on appelle la valeur verte. Donc avoir la certitude que quand on investit de l'argent dans du vert, dans de l'efficacité, c'est bien coté par des évaluateurs,
c'est reconnu,
et qu'on est capable de dire voilà ce que ça rapporte sur le long terme à l'investissement.
Le mot de la fin, Fabrice Boissier de l'ADEME.
Oui, à l'ADEME, on a coutume de dire que la transition énergétique, ça sera 50% d'innovation technologique et 50% de changement de comportement. L'innovation, on en a parlé, elle est là. L'ADEME, on a accompagné 750 projets avec les investissements d'avenir sur les 7 dernières années, 7,5 milliards, donc ça avance. Le changement de comportement, ça nous concerne tous. On ne peut pas dire il faut que l'État bouge.
Comportement de tous, hein.
Le comportement
les particuliers,
en tant que consommateur, en tant que citoyen, en tant qu'acteur en entreprise. Et donc c'est là aussi qu'est la clé.
Bon, super, merci à tous. Voilà, tout ça est porteur d'espoir malgré ces constats un petit peu dramatiques faits par le président de la République cet après-midi, donc sur l'île Seguin, ce One Planet Summit. Merci à Claire Gagnère, donc GOPLC, experte en efficacité énergétique. Gilles Béraud, voilà, qui va rejoindre le Maroc à la tête de la Fondation des Transitions. Bon retour à New York. Voilà, Christian Deséglise, hein, qui coordonne au niveau mondial, donc pour les banques centrales, le groupe HSBC, donc en matière d'environnement, et puis les pays émergents toujours. Éric Mazoyer, directeur général délégué de Bouygues Immobilier, et puis Fabrice Boissier, le directeur général délégué de l'ADEME, voilà, avec cette initiative en faveur des PME qui sont souvent débordées. Voilà, donc il vient à leur aide justement pour leur faire un audit énergétique. Merci à tous, c'est fini pour les décodeurs de l'écho. On revient très très vite. Tiens, ce mercredi soir, c'est plus grand plus fort avec Stéphane Soumier, son émission mensuelle.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.